Il était sur son char.
Amateur,
propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
J'écris désormais l'essentiel de ce que je fais sur un Macintosh classique, directement. Avant, j'écrivais sur une machine à écrire, sur des cahiers, et je recopiais. L'ordinateur est sur la table de mon bureau. Je suis devant le store noir, toujours baissé. Du côté gauche de l'ordinateur, il y a une pile de textes, de manuscrits en cours, des choses à lire. Le travail qui se fait. Au fond, l'imprimante et la lampe noire articulée orthopédique. Au pied de la lampe, depuis plusieurs semaines, de petites photos de famille qui traînent là. Une carte postale montrant Joseph Beuys qui, par-dessus ses lunettes et sous son chapeau, m'encourage à travailler. Mon encrier et un porte-courrier où s'entassent les bouts de papier, mon chéquier et ma feuille de température. J'écris en revanche mon journal sur des cahiers d'écoliers à petits carreaux de 192 pages. J'occupe l'ensemble de la page, je souligne la date directement. J'écris avec un stylo Mont-Blanc que m'ont offert mes trois amis. Il est toujours avec moi. J'écris à l'encre noire, l'encrier est sur ma table. J'écris aussi lorsque je me promène dans Paris ou ailleurs sur de petits carnets dont le choix est fixé par la largeur de ma poche arrière gauche. J'écris le matin maintenant. Je me lève tôt. Je tente de préserver ce temps-là. J'écris en douce. J'écris principalement mon journal dans les cafés. Je pars marcher et j'emporte mon cahier. En ville, dans les cafés, le bruit ne me concerne pas du tout. Les gens ne me gênent jamais et j'irai toujours plus vers un café plein de monde que vers un endroit vide. Je ne cesse de relever le nez de mon cahier et d'y retourner. Et les allers-retours ne me nuisent pas. J'ai de l'encre sur les doigts. Je suis toujours revenu de l'école avec de l'encre sur les doigts, et aujourd'hui encore, c'est toujours le cas. Il arrive encore qu'il y ait de l'encre sur mes draps, et longtemps j'ai essuyé la plume sur mes pantalons et mes chemises, mais on me l'a trop reproché et j'ai arrêté. J'ai encore un ordinateur portable que j'installe dans les chambres d'hôtel et dans les trains. Je ne me résous pas à y écrire directement mon journal. Ce serait admettre qu'on souhaite être lu et ce n'est pas si clair. Je ne sais pas, je m'en inquiète. Avec l'ordinateur ont disparu encore le brouillon, la rature et le remords. Je n'écris pas toujours. Parfois, je fais juste semblant. Pendant plus de 2 années, je n'ai pas écrit. Au retour d'Allemagne, après la mort de G, c'était terminé, je n'écrivais plus, j'étais tombé. Je n'ai jamais interrompu mon journal, j'y ai consacré machinalement beaucoup plus de temps encore. J'allais m'asseoir dans les cafés et je tenais mon petit registre, et pour ne pas me noyer définitivement, j'ai tenté aussi de mettre au propre les cahiers précédents. Chaque jour, j'ai recopié calmement les années précédentes. Peut-être les choses reviendront-elles sans trop de violence. On se dit cela, je ne sais pas. On peut écrire sans écrire, tricher, mais aussi rester là en silence, inutile ou impuissant. Quelques textes essentiels se construisent dans la tête sans plus aucun désir de le voir sur le papier. Sans plus aucune force de le donner, ne serait-ce qu'à soi-même.
Alors, vous l'aurez peut-être compris, vous êtes sur le théâtre de la Gamelle,
avec en lecture un extrait du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce, puisque nous consacrons notre émission aujourd'hui à Jean-Luc Lagarce, à l'occasion des représentations les 16 et 17 novembre 2016 à l'ENM du spectacle Le Pays Lointain. Donc, je suis accompagnée des comédiens du spectacle. Donc, nous avons Pierre-Olivier Drémond qui vient de lire l'extrait. Donc, bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Cécile.
Nous avons Mathilde Issad avec nous.
Bonjour.
Et Stéphane Rothenberg.
Bonjour.
Bonjour. Et Amandine Vincent qui est avec nous à la technique.
Bonjour à tous.
Et qui sera invitée aussi à participer à tous les débats que nous allons avoir dans l'émission. Donc, vous êtes les comédiens du spectacle Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, qui est mis en scène par Christine Joly, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Jean-Luc Lagarce, ouais, vous pourriez nous parler un peu de cet auteur, Mathilde ?
Oui. Alors, Jean-Luc Lagarce, nous, on en a fait la découverte avec Christine Joly, donc qui nous a demandé de lire pas mal de son œuvre, voire toute son œuvre. Et du coup, c'est un auteur qui parle énormément à partir de sa propre vie. J'autorise mes camarades à
réagir,
agrémenter ce que je vais pouvoir raconter.
Non, mais reste concentré, dès que tu dis une bêtise, on te reprend. Ouais,
alors, du coup, je me permets, donc, bon, moi, c'est Cécile aussi, Cécile Hernandez, je ne l'ai pas dit, du coup. Et aussi, donc, le spectacle, il a été créé dans le cadre du troisième cycle du Conservatoire de Villeurbanne.
C'est bien exactement ça.
Donc, il a été créé l'année dernière. Et ensuite, vous le reprenez pour cette saison à l'ENM, c'est ça, hein ?
Effectivement, en fait, donc, c'est un stage qui a eu lieu donc, au début de 2016 avec Christine Joly, donc, qui travaille au Conservatoire de Tours.
D'accord.
Et donc Philippe Clément, le responsable du Conservatoire de Villeurbanne, section théâtre, lui a demandé donc, d'organiser un stage autour de Jean-Luc Lagarce, de ses écrits.
Et donc, à savoir que Christine Joly a été comédienne sur les spectacles de Jean-Luc Lagarce. Hein.
Effectivement, elle le connaît particulièrement bien.
Voilà, c'est ça. Et du coup, vous pouvez nous parler un peu de la spécificité de la langue de Lagarce, parce que ça, c'est une chose dont on entend beaucoup parler.
Oui, c'est une langue qui est assez dense, qui peut surprendre un peu à la lecture, parce que c'est une langue qui est très, très littéraire. Qui cherche les mots juste. En fait, on nous le présente comme une langue qui rentre dans le détail de la pensée, c'est-à-dire qu'on nous le présente comme la langue de la pensée, dans le sens où les personnages se corrigent en permanence, vont chercher le mot exact, et je ne me souviens plus de la figure littéraire de la correction de soi-même. Je ne sais pas si vous...
Oui, effectivement.
Un personnage qui dit un mot et qui se rend compte que ce n'est pas le bon mot, alors du coup se corrige. Là où certains auteurs vont choisir le bon mot directement, là le personnage déroule la pensée, c'est-à-dire que tout le chemin que prend la pensée pour arriver à l'idée juste est écrit sur la feuille. Donc c'est une langue qui est très littéraire, parce qu'elle est à la recherche du mot, et en même temps c'est un vrai cadeau pour les comédiens, parce qu'on le travail est quasiment fait pour nous par le texte. Le chemin de la pensée est dessiné sur la feuille, donc il suffit quasiment de lire et de rentrer dans le corps du texte pour que la pensée qu'on a exprimée se prenne vie et prenne corps hyper facilement.
Et aussi même visuellement, enfin voilà, il y a beaucoup de virgules aussi, donc il y a un côté peut-être musical aussi avec cette langue-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est clair que c'est une langue de la répétition. Donc dans ce sens-là, c'est aux comédiens d'y mettre du rythme et de trouver la façon de niveler le texte, en fait, de hiérarchiser. C'est un personnage qui est aux prises avec sa propre pensée, comme l'acteur est aux prises avec son texte. Mm-hmm. Donc là-dessus, les deux se rejoignent d'une façon assez rigolote. Et du coup, c'est là qu'il y a un tri qui se fait dans les mots. Il y a une hiérarchisation des mots qui fait que tu peux trouver un rythme très intéressant et rebondissant, en fait, entre les personnages et du personnage à soi-même.
Et c'est bien d'ailleurs que tu aies utilisé le mot rigolote, puisque en fait, quand on avait travaillé avec Christine Joly, elle nous avait parlé du fait qu'effectivement, souvent Jean-Luc Lagarce était abordé sous le thème du drame et de la tragédie.
Oui, oui.
Et que, en fait, il était extrêmement rigolo au quotidien. Et en fait, dans cette écriture aussi qui se cherche elle-même, cette pensée qui se précise, il y a aussi un jeu de, je pense, de l'écrivain avec ses comédiens futurs, puisque en fait, les textes qu'il écrivait, il les écrivait pour sa troupe.
Mmh. Alors, pour recontextualiser un peu pour les auditeurs, donc Jean-Luc Lagarce est un auteur du XXe siècle, puisqu'il est mort en 1995 du sida. Donc ça, c'est un des faits qui a marqué son histoire, et le fait de, on le connaît notamment aussi pour ça. Mais voilà, c'est son œuvre a pris une puissance après sa mort qui était inimaginable à ce moment-là. Donc il y a vraiment, pour moi, enfin voilà, dans mon rapport avec cet auteur, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il y a des redondances, des répétitions, des notions qui sont souvent importantes. Est-ce que il y en a qui vous viendraient là, comme ça ?
C'est vraiment un auteur qui fait œuvre dans le sens où ses thèmes reviennent d'une pièce à l'autre, et certaines pièces éclairent d'autres pièces. Et les thèmes qui reviennent souvent, je sais pas, c'est la famille, c'est le fils qui revient dans la famille, ça on le voit au moins dans 3-4 pièces différentes.
L'attente des membres d'une famille, soit qui y ont vécu l'attente pendant 15 ans, là c'est le cas dans Le Pays Lointain, ou l'attente qui se prolonge et qui est en train d'avoir lieu. Je pense à J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne.
La maladie aussi qui est très présente, c'est un auteur qui est capable de parler du sida dans beaucoup d'œuvres sans jamais vraiment dire le mot sida. Du coup, il parle de la maladie, il parle de la décrépitude du corps avec réalisme et en même temps avec humour.
Moi, pour avoir lu, je donne le nom pour les auditeurs. Donc, le roman de Jean-Luc Lagarce de Jean-Pierre Thibaudat. Dans ce livre, voilà, est évoqué le fait que Jean-Luc Lagarce, dans ses premiers ouvrages, évoquait déjà l'idée d'un personnage qui revient chez soi, qui revient quelque part, disons, pour annoncer sa mort prochaine, avant même qu'il soit au courant de sa séropositivité. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette figure-là, enfin, c'est un peu de la mythologie, c'est quelque part le mythe aussi d'Ulysse qui revient, donc il y a quelque chose qui s'ancre dans l'histoire, dans la figure du drame et d'une dramaturgie, et en même temps, voilà, lui, c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il a touché personnellement. Et sinon, concrètement, dans le spectacle Le Pays Lointain, vous pourriez nous raconter l'histoire, c'est quoi finalement ?
Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de revenir dans sa famille, son monde, à l'heure de mourir. Ça, ce sont quasiment les premiers mots du spectacle. L'importance du retour vers sa famille, au moment de mourir. C'est une pièce qui est particulièrement intéressante de ce fait qu'il a été, et c'est une sorte de réécriture qu'il a fait à partir d'une pièce qu'il avait déjà écrite, juste la fin du monde. Et donc 5 ans après, vraiment à la veille de mourir, il écrit une sorte d'amplification de cette pièce, où cette fois-ci c'est plus juste la famille, c'est la famille et tout le reste. Parce que effectivement ce que tu évoquais, ce qu'on évoquait par rapport à ces thèmes, il y a quelque chose qui est commun à tout ça, c'est vraiment une analyse des comportements humains et des relations humaines. C'est vraiment au niveau des relations et de l'humanité en général, de sa beauté et de ses travers très nombreux, qui fait la force de la globalité de son œuvre. Et tout est résumé dans la pièce du Pays Lointain.
Donc dans le Pays Lointain, on a un peu deux familles qui se rencontrent, avec le personnage de Louis qui vient annoncer sa mort, qui est un peu central. On a d'un côté, comme tu le disais Pierre-Olivier, la famille, ce qu'il appelle la famille subie, c'est-à-dire les frères, les sœurs, enfin
la famille imposée.
La famille imposée.
Car imposée, je suis désolé.
Et en parallèle avec cette famille imposée, on a la famille choisie, qui est la famille qu'on s'est créée au fur et à mesure de sa vie, avec ses expériences. Donc on a autour de Louis, on a par exemple le personnage de longue date, qui est un genre d'amant platonique. On a des amis qui gravitent, on a des amants qui sont morts, on a des fantômes, et toute cette population-là de la famille choisie l'accompagne dans la famille imposée à l'heure d'annoncer sa mort. Donc c'est un peu une confrontation métaphorique des deux familles. Ouais.
Mais je trouve que moi, c'est en ça que, du coup, cette pièce-là, elle a quelque chose d'universel, dans le sens où on peut tous, au moins, entendre cette chose-là, qu'en effet, on a la famille avec laquelle on est né, notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes. Et il y a les rapports familiaux qu'on s'est créés aussi, qui sont d'ordre amicaux, amoureux, et qu'on a inventé, créé de notre vivant. Et je pense que c'est vraiment de ça qu'il traite aussi dans cette pièce. Et du coup, je propose la lecture d'un extrait par Stéphane, du coup.
Alors, où est-ce qu'on est dans la pièce ? C'est un monologue de Louis. Il est déjà rentré dans la famille et ça se passe, pour recontextualiser un peu, ça se passe pas hyper bien dans le sens où son retour dans la famille est un peu l'occasion pour tout son frère, sa sœur, sa mère de l'occasion pour eux de faire revivre leur trauma par rapport à Louis. Tout le monde a une relation très compliquée à Louis. Et donc on peut imaginer que c'est un moment où Louis se met un peu à l'écart et cherche à exprimer sa pensée à ce moment-là de sa progression dans l'histoire.
Je veux juste préciser que cet extrait-là, il est issu de Juste la fin du monde, donc le premier livre qui parle de cette histoire. Le pays lointain étant une réécriture de Juste la fin du monde.
Donc on le retrouve dans Le pays lointain et Juste la fin du monde.
Et cette fois-ci, dans Le pays lointain, c'est plus le même personnage qui prononce.
En effet.
Et si je peux me permettre, je rappelle à nos auditeurs que récemment, justement, il y a eu un film, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan. Et voilà, si vous ne connaissez pas l'écriture de Lagarce, c'est aussi un moyen de le découvrir. Voilà, mais on a envie de t'écouter, Stéphane.
j'y vais. Au début, ce que l'on croit... J'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seul. Ensuite... Mais c'est plus tard, l'ironie est revenue, elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite on songe à voir les autres, le reste du monde après la mort. On les jugera, on les imagine à la parade, on les regarde, ils sont à nous maintenant. On les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait triste et amer et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance, on s'amuse, je m'amusais. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi allongés, les regardant des nuages, je ne sais pas, comme dans les livres d'enfants. C'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là ? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas, leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure. On est bien, je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut, parfois je m'agrippe encore, je deviens haineux et enragé, je fais les comptes, je me souviens, je mords, il m'arrive de mordre, ce que j'avais pardonné, je le reprends, un noyer qui tuerait ses sauveteurs, je leur plonge la tête dans la rivière, je vous détruis sans regret, avec férocité, je dis du mal, je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir, je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise. Et cet épuisement me laissera disparaître enfin. Demain, je suis calme à nouveau, lent et pâle. Je vous tue les uns après les autres. Vous ne le savez pas et je suis l'unique survivant. Je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier et les meurtriers ne meurent pas. Il faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne. Je ne vous ai jamais aimé. C'était des mensonges. Je n'aime personne et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision, et mourir vous abîme, et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie, je me sacrifie. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi, et je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai, je rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon ? C'est une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre, je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Rien de pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient ? Ce n'est pas beau, mais ne pas être beau me laissera moins regrettable.
eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'ombre, et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme une source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits. J'ai tout retrouvé, hélas. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, mes mains réveillent, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre, des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attirez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la paix. Et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?
Voilà, donc c'était Barbara, mon enfance, et vous pourrez retrouver ce morceau dans le spectacle puisqu'il est chanté à la guitare par un des comédiens. Donc juste avant, vous aviez entendu un extrait du personnage de Louis dans Juste la fin du monde, lu par Stéphane Rothenberg.
Devrions-nous jamais revenir un jour là où nous avons vécu, où nous étions auparavant? Nos rivages anciens, le lieu de notre jeunesse et de notre apprentissage, le beau secret de nos premières hésitations, ces lieux où nous prétendons toujours que nous avons été heureux, devrions-nous y retourner? Que nous ne pouvons lâchement ignorer que déjà, peut-être, nous nous trompons nous-mêmes.
Donc ça, c'est un extrait encore du luxe et de l'impuissance. Bah, au sujet, voilà, enfin, ça évoque là à nouveau la chanson de Barbara, le retour chez soi, dans la maison familiale. Donc, moi, je recommande vraiment la lecture du luxe et de l'impuissance parce que c'est des textes vraiment, vraiment très, très forts. Donc, pour revenir autour du spectacle, moi, je suis curieuse, d'entendre vos retours par rapport au travail avec Christine Joly, quelles étaient les intentions dans la mise en scène. Voilà, je vous écoute.
Eh bien, déjà, ce qu'on avait eu à faire avant le stage, donc, c'était de bien connaître l'œuvre de Jean-Luc Lagarce. Et en fait, elle nous avait envoyé une distribution sur le pays lointain, parce qu'on s'était rencontrés un peu de temps avant, et elle avait déjà établi une distribution. Et donc, on a commencé le travail, en fait, à la table, en lisant. Et il faut savoir quand même que on devait jouer ce spectacle, parce que ce stage devait donner lieu à une présentation de travail, et on devait le jouer dans le cadre d'un festival qui se joue à Villeurbanne au théâtre de l'Iris, qui s'appelle Brut de Fabrique, qui a lieu tous les ans aux alentours de mai. Et donc le timing réglementaire, c'est 1h30, très 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 grand maximum.
Ah oui, 1h30 de spectacle, oui.
Voilà. Donc en fait, le pays lointain, théoriquement, c'est plutôt dans les 4h30.
Au moins, oui.
Et donc, on a fait un très gros travail de coupe. Et ça a été assez dur,
douloureux,
acharné.
Oui, ça c'est une chose que, en tant que spectateur, on peut pas forcément se représenter, mais en effet, devoir couper un texte, c'est vraiment pas évident. Mais en même temps, ça rentre, enfin, je trouve que ça rentre dans le processus de travail ou d'appropriation aussi de la pièce.
C'était une boucherie phénoménale, mais en même temps, ça a fait en sorte que on a dû bosser, comment dire, se plonger dans le texte. Chacun aussi dans sa partition, parce qu'on était tous chargés de couper dans notre partition, et ça nous faisait vraiment rentrer très profondément dans justement la pensée des personnages, dans ce qui pouvait ou non être omis par eux, parce qu'en fait aussi l'écriture de Jean-Luc Lagarce, c'est toute une histoire d'omission, c'est là où je marche, là où je pose des mots, c'est là où j'évite des bombes, des mines, c'est le terrain de la famille, c'est un terrain miné, plein de tabous, donc qu'est-ce que je choisis de passer sous silence moi en tant qu'acteur, qu'est-ce que lui en tant qu'auteur, il a déjà choisi de passer sous silence, c'était tout ça qui se superposait, c'était hyper intéressant. Même si c'était hyper frustrant, parce que du coup, on est passé au plateau que très tardivement. Et je pense qu'on s'est tous rendu compte à ce moment-là à quel point le travail à la table avait été fructueux et
nécessaire.
Ça avait fait germer énormément de choses avant même de se mettre à incarner un personnage, en fait.
Ouais, parce que ce qui était délicat, effectivement, c'est qu'on avait donc 2 semaines pour monter ce spectacle. Et donc on a passé une bonne semaine à la table à faire des coupes. Et effectivement, comme le dit Mathilde, en fait, ce travail délicat de recherche de l'essentiel de ce qu'on imaginait essentiel au personnage, en fait, ça nourrit aussi l'intériorité des personnages, enfin du comédien pour son personnage. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, en fait, on a tout un tas d'autres choses à dire qu'on ne pourra pas dire et qui en même temps nourrit la relation du moment sur le plateau.
Après, le travail a beaucoup été axé sur le concret des situations, dans le sens où c'est un texte, on l'a dit tout à l'heure, qui peut paraître assez, assez littéraire, assez dense. Et donc on a fait une grosse partie du boulot sur le fait de rendre les scènes vivantes et légères voire joyeuses, pourquoi pas joyeuses, les scènes de famille qui peuvent être très littéraires quand on les lit, les rendre vraiment réelles et concrètes et s'amuser avec, se piquer, jouer avec, se taquiner, tous ces petits jeux-là qui apparaissent pas nécessairement à la lecture, les rendre concrets. Et il y a aussi comme c'est une pièce où il y a des monologues et une pièce où il y a différents niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il y a les personnages, il y a les comédiens qui jouent les personnages, il y a les amis qui jouent des rôles pour revivre des aventures, il y a différents niveaux de lecture. Donc on a aussi fait un travail sur le rapport au public, où il y a beaucoup de choses qu'on dit au public, où on se présente soi-même au public, on présente les autres, on présente notre relation au public. Donc les 12 personnages de la pièce qui ont des relations très complexes, on essaye d'intégrer le public dans cette histoire et de les amener avec nous.
Oui, je trouve ça important de le dire pour les auditeurs, puisque si vous venez voir le spectacle, vous allez voir que là, on n'est pas dans une pièce où il y a un quatrième mur. Donc le quatrième mur, ce serait celui qui sépare les spectateurs des acteurs, puisque là, les comédiens s'adressent directement aux spectateurs.
Voilà, sans arrêt, il y a effectivement cet aller-retour où Christine Joly avait bien insisté sur cette importance pour nous, personnages et comédiens, de raconter cette histoire à un public, de dire, d'ailleurs ce mot Louis le prononce très souvent, j'étais là pour dire, je veux dire ce que je voulais dire, ce sont des phrases qui reviennent souvent, et donc c'est vraiment des gens qui sont là pour raconter et qui racontent ensemble, et qui en même temps ont leur relation aussi. Et donc c'est sans arrêt des allers-retours entre la scène, le public et puis le théâtre et les allers-retours comme ça.
Simplement, pardon, juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas notre métier de comédien et qui ne savent pas ce qu'est un travail à la table, je vais préciser un peu en quoi ça consiste. Donc le travail à la table, on se met donc tous autour d'une table, forcément, et on fait un travail sur plutôt des lectures du texte et les lectures psychologiques aussi du texte. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Que veut dire ce personnage? Qu'est-ce qu'il ressent? Etc, etc. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde.
Oui, voilà, c'est du coup un travail qui s'axe plus de manière intellectuelle, on va dire, autour du travail et du texte. Puis après, bah, justement, dans le passage au plateau, j'étais curieuse de savoir comment c'est, enfin, par rapport à la mise en scène, est-ce qu'elle avait des idées précises tout de suite ou vous l'avez vraiment trouvé ensemble?
En fait, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, on a passé une très grosse partie de notre début de stage à la table. Mais Christine Joly avait aussi la volonté de nous confronter très tôt au plateau. Et donc, avant même d'avoir fait des coupes, on s'est essayé directement sur quelques scènes à jouer texte en main, à mettre en espace ce texte qu'on découvrait quasiment en même temps.
Et c'est à travers ce boulot-là de première prise en main du texte sur le plateau qu'on a... On a compris un peu les fondamentaux de la mise en scène, c'est-à-dire entre autres la notion de constellation, elle revenait souvent là-dessus. On est 12 sur scène, on l'a pas dit, c'est quand même assez conséquent, 12 personnages sur scène, qui sont toujours là, il n'y a personne qui sort de scène, à part pour se mettre un peu en retrait. Enfin, tout le monde est toujours plus ou moins là, plus ou moins en retrait, mais dans les faits, tout le monde est sur scène.
Il n'y a pas de coulisses, quoi.
Non. Et du coup, la notion de constellation, c'est de dire on est tous en permanence, soit dans un groupe, dans un petit groupe, dans un grand groupe. On a la constellation de la famille choisie, la constellation de la famille imposée. À l'intérieur, il y a des sous-groupes. Et donc, on a défini ensemble un peu les règles de base de répartition dans l'espace. On est soit très proche, soit très loin. On se positionne toujours par rapport à l'action, même quand on est en périphérie. Les spectateurs sont spectateurs de... Les comédiens qui sont spectateurs sont quand même acteurs et influent quand même sur l'histoire. Donc, dans l'espace, ça veut dire certaines choses. Ça veut dire que des groupes se composent, qui se divisent, qui se retrouvent. Il y a eu un travail un peu sur la chorégraphie collective qu'on a trouvée, dont on a déterminé les règles assez vite en tout cas.
Oui, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de scénographie en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été construit exprès pour le spectacle. On a des tables, on a des bancs. Mais ensuite, moi, je trouve qu'on pourrait dire que la scénographie, c'est un peu les corps des comédiens. Parce que en effet, vous êtes nombreux et que ça se meut, ça bouge. Du coup, je trouve que... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça.
Non, mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé comme ça. Mais oui, une scénographie de corps en mouvement... constellaire, je sais pas si ça se dit, mais en relation les uns avec les autres, si l'un fait un pas, ça modifie légèrement l'espace de chacun et chacun se situe, se repositionne, se replace en fonction de ça. Il y a comme un équilibre précaire à trouver sur le plateau et voilà.
Il y a un peu cette bataille amicale aussi entre tous les personnages où chacun, comme on est en train de raconter une histoire. Une histoire au public, mais même les personnages qui sont dans une situation ont cet influx. Chacun veut raconter son histoire à lui. Du coup, la chorégraphie collective, elle se dessine un peu comme ça, où les personnages qui sont en retrait vont à un moment s'imposer sur le devant et tout le reste va se remodeler autour. Donc il y a ce rapport au centre de la scène où les personnages viennent, puis se font virer, puis d'autres viennent, puis ça se remodèle et ça se réagence.
Dans ce souci toujours d'être juste, on vient corriger les autres, apporter sa petite touche, son grain de sel à l'édifice. Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui, pour moi, le passage au plateau a énormément changé ma façon de voir la langue de la gare et les textes. Préciser simplement qu'à la lecture... Comme ça, tout seul, dans la découverte des textes, dans sa tête, c'est assez... comment je pourrais dire ça?
Est-ce que tu veux
compliqué et lourd à lire. C'est assez chiant à lire, en fait. Moi, personnellement,
ça a été dur.
Moi, ça a été très, très dur de découvrir la Garce.
Seul avec ton livre.
Voilà, seul. C'est vraiment une écriture de mise en mouvement. Mm-hmm. La parole fait apparaître un mouvement qui est loin d'être tragique. comme on disait tout à l'heure, ça a l'air d'une tragédie. C'est vrai, ce qu'on livre, c'est quand même assez lourd comme histoire à porter. Et pourtant, Christine nous répétait toujours, c'est une comédie qu'on joue. Mmh. Et Lagarce lui-même, dans des textes, soit des journaux intimes, soit des pièces, il a toujours cette phrase qui dit « et pas toujours triste ». Et en fait, il a une distance incroyable par rapport aux événements de sa propre vie, des vies qui l'entourent, parce que c'est l'hécatombe dans ces années-là, tout le monde tombe du sida. Mmh. Autour de lui, il y a des morts, et il est entouré d'amis qui meurent.
Bon, on peut
et
citer Coltès aussi, en auteur dramatique, bon, voilà. Qui est décédé du sida à cette même période. Enfin, bon, y a pas que, hein, malheureusement, mais oui, en effet, c'est ancré avec cette période-là, mais en même temps, par son talent aussi, il s'extrait de juste ce fait, enfin c'est pas un fait divers, mais de ces événements-là, disons.
Oui, il y a une distance un peu ironique. Il s'attarde pas pour pleurnicher. Je trouve qu'il raconte des événements d'une violence assez intense, avec une espèce de, avec sa façon à lui de le raconter, il y a une distance presque comique qui se crée où il peut le raconter quand même d'une manière légère. Je trouve que la force concrète du texte, elle est là aussi. On s'en rend compte une fois qu'on le parle et qu'on le joue avec les autres.
Mm-hmm. Oui, effectivement, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur la justesse des relations humaines qui sont construites, c'est aussi une justesse de sa propre personne. Et il y a énormément d'autodérision dans toute l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, et particulièrement dans Le Pays Lointain.
D'ailleurs, le titre de la pièce et le titre du film de Dolan, c'est un peu ça aussi, c'est juste la fin du monde, c'est je vais mourir et je vais plus jamais vous revoir, c'est juste la fin du monde, c'est pas grave.
Oui, mais du coup, d'ailleurs, tu parles du film, vous l'avez tous vu ici. Amandine, tu l'as vu le film?
Oui, je suis allée le voir.
Oui, ok, d'accord. Mais
après, c'est une adaptation, hein, bien
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr.
C'est une libre adaptation cinématographique, mais...
Mais après, il est resté assez proche du texte quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui êtes en train de travailler sur cet auteur?
Déjà, je pense qu'on pourrait juste... personnellement, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup aimé le film. Et ensuite... je voudrais bien y apporter quelques nuances.
Bah vas-y.
Non, en fait, je voulais juste savoir si vous aviez aimé aussi. Peut-être que les auditeurs ont envie de savoir ça.
Moi, j'ai aimé aussi voir ce film. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que si j'avais pas travaillé comme je l'ai fait sur Le Pays Lointain, sur cette histoire de juste la fin du monde... Et sur ce personnage de la mère, est-ce que j'y aurais trouvé un intérêt aussi grand? J'aurais bien voulu avoir la télécommande de Men in Black dans les mains, pouvoir zapper ma mémoire pour revoir le film à blanc.
Effectivement, nous ne le saurons jamais.
Voilà. Moi, je peux t'aider parce que pour le coup, je ne connaissais pas la pièce. Je ne l'ai jamais lue. Donc, j'ai vu le film. Et en fait, j'ai vraiment plongé dans un univers, dans une langue, parce qu'aussi, le réalisateur, avec sa caméra, il a des plans qui sont juste hallucinants, et on est dans une intimité, et en même temps, on sent des conflits dans cette famille, et il y a un rapport à ce personnage qui est très particulier, on sent qu'il est attendu comme le Messie, puis finalement, une fois qu'il est là, tout le monde déborde sur lui... tout le monde lui raconte ses problèmes, mais enfin il y a une espèce de rapport à la famille très particulier. Et pour coup, sans avoir lu la pièce, donc du coup je suis très curieuse aujourd'hui forcément de lire la pièce forcément. Mais voilà, avec mon regard neuf, en tout cas, moi j'ai été transportée dans les personnages, dans leur psychologie, dans leur histoire et dans la langue.
Mm-hmm. En tout cas le film et la pièce qu'on joue ont quand même certaines différences, dans le sens où nous, on l'a dit, on joue pas juste la fin du monde, on joue Le Pays Lointain, qui apporte beaucoup de personnages en plus et beaucoup de relations nouvelles. Mm-hmm. Et le film a quand même un éclairage beaucoup plus dramatique sur la situation que nous, ce qu'on fait dans la pièce, entre autres le commentaire de Christine, ce que vous jouez c'est une comédie, même si le sujet est dramatique. Nous, on a essayé de trouver la légèreté qu'il y avait dans le texte, là où Xavier Dolan a quand même réaliser une tragédie, enfin du moins.
Puis je trouve que ouais. C'est aussi le côté mise en abîme, c'est-à-dire que comme il y a adresse au spectateur, je trouve que du coup ça décale quand même cette chose très juste la fin du monde. Il a cette voilà, comme il y a que la famille dont imposée, voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai que ça dans le pays lointain, voilà, il y a ce décalage aussi grâce aux deux familles et aux adresses publiques aussi qui sont.
Oui, oui. En fait, il y a tous ensemble, malgré le fait que chacun soit seul, qui se crée dans notre pièce de théâtre parce que cette adresse triangulaire au public, elle fait en sorte qu'on est tous en train de construire ensemble un même récit pour un même public. Tandis que là, dans le film, on est plongé, petite souris, voilà, qui voyons ce qui se passe. Dans les relations intrinsèques et familiales et compliquées. Et du coup, chacun, pour le coup, est seul, terriblement seul, dans cette famille où ils ne se comprennent pas.
Oui, voilà. Et en plus, dans juste la fin du monde, dans le texte, il y a Louis qui a beaucoup d'adresses publiques. Et en fait, ça, Xavier Dolan, il l'a enlevé. Enfin, il a travaillé plus en termes de réminiscence de Louis quand on le voit avoir des images. Il a moins traité, enfin, il n'a pas du tout traité l'adresse spectateur, du coup. Et voilà, donc je pense qu'il y a aussi dans ce côté-là où voilà, il est rentré totalement dans l'histoire un peu dramatique. Bon, ben moi je propose qu'on passe à la lecture d'un extrait du Pays lointain.
Juste un petit truc que je voudrais dire avant, c'est qu'effectivement, non seulement c'est pas la même pièce, et que déjà c'est au cinéma, donc il n'y a pas l'adresse publique, etc. Et aussi, il y a quelques partis pris de Xavier Dolan par rapport au personnage qu'il a modifié. Quant à l'aînesse des deux frères, et peut-être un peu plus manichéen que le voyait Jean-Luc Lagarce dans les textes, en tout cas.
Oui. Peut-être, oui.
Bah, je précise là-dessus parce que, du coup, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre, mais c'est vrai que le personnage de Louis, même si dans sa famille il ne parle pas beaucoup, dans la pièce, il s'adresse énormément au public. Et ses amis, qui le connaissent très bien, s'adressent énormément à lui, ce qui fait qu'on y a accès comme à quelqu'un, on a accès à tous ses défauts, sa lâcheté, sa couardise, son orgueil, ses faux-semblants, sa façon de tricher constamment dans la vie, de se faire paraître pour quelqu'un qui contrôle tout. Et ça, bah, évidemment, Gaspard Ulliel, il n'avait pas grand texte à apprendre, et il apparaît vraiment dans le film comme une victime. Enfin, moi je me suis beaucoup attachée à lui, je le trouve assez formidable en tant qu'acteur, mais on parle presque plus du même personnage.
Oui, en fait.
Mm-hmm. Moi, pardon, vous vouliez peut-être continuer.
Non, c'était juste pour préciser qu'on ne l'avait peut-être pas dit clairement, mais Louis est un peu l'avatar quand même de Jean-Luc Lagarce, très clairement dans ces deux textes.
Moi j'avais juste une question par rapport à votre projet, à votre pièce, sur le type, parce qu'il y a donc 12 personnages. Quels sont les types de personnages qu'on retrouve, parce que vous parlez donc de familles imposées, de familles choisies, c'est ça ? Quels sont les types, si on peut parler de types de personnages qu'on pourrait retrouver ?
Juste une toute petite précision, en fait, on dit 12 personnages, mais en fait, il y a 12 comédiens, mais seulement 11 personnages.
Oui, d'accord.
Le personnage de la sœur Suzanne ayant été partagé sur deux comédiennes.
Bah, du coup, vous pouvez peut-être répondre par rapport à dire quel personnage on peut retrouver dans la famille.
Alors moi, je joue Louis, qui retrouve sa famille. Dans la famille, on a la mère, qui est jouée par Mathilde, la sœur, qui est jouée par deux comédiennes, le frère, la belle-sœur de Louis, donc la femme du frère.
Voilà, c'est ça.
Et on a le père, qui est mort, mais qui est présent en tant que présence. Quand Louis retourne dans sa famille, il voit son père, qu'il soit mort.
Il est là physiquement, mais il est mort dans l'histoire.
Donc ça, c'est pour la famille imposée.
Voilà.
Et la famille choisie Elle est plus morcelée. On a donc Longue Date, qui s'appelle Longue Date, qui est joué par Pierre Olivier.
L'ami de Longue Date,
qui est, je disais, l'amant platonique, du moins l'ami avec lequel il ne s'est jamais rien passé, parce que ça parle d'homosexualité aussi, ce texte. On a des personnages qui s'appellent Le Garçon, Tous les Garçons et Le Guerrier, Tous les Guerriers, qui représentent à eux deux l'ensemble des amants que Louis a eus. Sachant que les deux sont un peu, chacun va jouer le rôle d'un amant quand l'occasion se présentera, et pour rejouer une situation et une aventure de Louis. Sachant que le guerrier représente plutôt des aventures sans lendemain, sans sentiment, des histoires d'un soir où, avec qui il a couché, là où le garçon représente plutôt des tendresses d'un soir, des relations amoureuses
plus tendres, peut-être
pas nécessairement longues, mais plus tendres ou plus de sentiments, sachant que
qui ose s'attacher en fait.
Ouais, voilà.
Les guerriers, tous les guerriers, ils sont, c'est des relations un petit peu violentes parce que justement elles ne veulent pas se commettre.
Ils ne veulent plus jamais être responsables.
Donc on a cette petite fresque d'amant avec ces deux personnages-là.
Mm-hmm.
On a aussi Hélène qui est jouée par Cécile Hernandez.
Oui, parce que je suis aussi sur le spectacle, disons-le.
qui est la femme, ou du moins la compagne de longue date,
la femme, on peut le dire.
Qui est un peu la seule femme du groupe de la famille choisie. C'est un peu la fille parmi les hommes qui a dû se trouver sa place au milieu d'une bande de mecs qui couchaient plus ou moins tous ensemble. Et on a l'amant, qui s'appelle l'amant mort déjà. C'est aussi un fantôme qui accompagne Louis, qui est la seule relation peut-être vraiment sérieuse qu'aurait pu avoir Louis si l'amant n'était pas mort. Donc on a cette famille-là un peu constellaire qui le suit et qui accompagne Louis dans la famille.
Et qui est mort du sida, enfin c'est pas dit dans la pièce, mais on l'entend comme ça, hein. Puisque c'est, voilà, c'est comment il va voir au fur et à mesure des personnes mourir autour de lui, et lui-même va en mourir aussi.
Effectivement, le mot de sida ou de séropositivité n'est jamais prononcé dans la pièce, mais les histoires qui sont racontées le font clairement comprendre.
La plus grande, l'aînée, la plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée. Je crois que c'est juste un peu pour s'amuser, non ? Antoine ? Bon, il ne me répond pas. Je ne sais pas, on dit votre mère, votre sœur, et je ne vais pas les contredire, on dit qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait, en fille, la même personne.
Le même caractère. Le même sale, mauvais caractère. Ils sont les deux mêmes, pareils et obstinés. Lorsque tu la verras, tu pourras juger.
Nous vous avons envoyé à notre tour une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue, c'est un bébé, ces idioties. Assez fripée, je ne sais pas si on dit ça d'un enfant. Mais bon, nous nous comprenons, ce n'est pas méchant, hein. Assez fripée. Antoine a toujours passé son temps à la photographier, et nous tous aussi, il nous photographie. De sa famille, j'ai bien peur qu'il n'y ait que vous qu'il ne photographie pas.
Laisse ça, tu l'ennuies.
Tu les ennuies.
Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça ?
Je vous ennuie, moi j'ennuie tout le monde, les enfants, ces enfants. On croit que ça intéresse, on croit être intéressante, c'est juste moi que cela intéresse.
Non, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, cela ne m'ennuie pas du tout, tout ça, mes filleuls, neveux, nièce, ma nièce. Non, ce n'est pas ma filleule, c'est pas ma filleule, hein. c'est pas comme ça qu'on dit. Ça m'intéresse, ma nièce m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, nous en étions là, nous allions y arriver. Je sentais que nous allions y arriver.
Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon a 6 ans. Il a maintenant 6 ans. 6 ans ? Antoine ? Bon, il ne me répond pas. Je ne sais pas quoi d'autre.
Je n'ai rien dit. Ne me regarde pas comme ça. Tu vois, quand elle me regarde, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, peut-être tu l'ennuyais. Tu l'es ennuyé, tu allais l'ennuyer. Il a toujours ses valises en main et déjà toi, tu lui parles, tu le recouvres, tu l'envahis, tu le noies, tu l'accables.
Antoine a raison.
C'est pénible. Ce n'est pas bien, excuse-moi. Excusez-moi, mais
cela va être de ma faute. À l'aise. Ça va être de ma faute.
Elle parlait de Louis. Nous en étions là, Catherine. Tu parlais de Louis, le gamin. L'enfant, continue, hein. Recommence. Et celui-ci, Antoine, laisse-le.
Oui, pardon, ce que je disais. Il s'appelle comme vous, mais à vrai dire...
Les rois de France !
Écoute, Antoine, écoute-moi, je ne dis rien, cela m'est égal. Tu racontes à ma place.
Ils sont énervés, le fait que tu reviennes. Ils sont énervés, le fait qu'ils reviennent. Il ne faut pas leur en vouloir.
Je n'ai rien dit, je plaisantais. On ne peut plus plaisanter ? Un jour comme aujourd'hui, une fête, si on ne peut plus plaisanter.
Cette plaisanterie-là, je l'ai déjà entendue. Comment est-ce que tu as dit ? Les rois de France, oui, c'est drôle.
Explique.
Il porte le prénom de votre père. Cela faisait plaisir à Antoine. Je ne déteste pas ce prénom, je n'avais rien à objecter. Et puis, ce que je voulais dire, puisque vous n'avez pas d'enfant et Antoine dit ça, tu as dit ça, et puisque Antoine dit que vous n'en aurez pas, bon, ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, sa descendance en fait le deuil, puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela. Il était logique, on me comprend, logique, que nous l'appelions Louis, comme votre père, donc, et comme vous, de fait.
Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus.
Je ne suis pas d'accord avec eux. Tu n'es pas si vieux pour renoncer à donner suite. Donner suite, la vie. Donner la vie, procréer, tout ça.
Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit l'héritier mâle? Là, je n'avais pas envoyé de mots.
Mais merde, ce n'est pas de cela qu'elle parlait.
Voilà, vous venez d'écouter un extrait de Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, donc qui sera joué les 16 et 17 novembre à l'ENM de Villeurbanne, à savoir que l'entrée est gratuite, il suffit de réserver au numéro de l'ENM. Donc vous pourrez retrouver dans ce spectacle les comédiens Stéphane Rothenberg, Pierre-Olivier Drémond, Pierre-Alexandre Terpeau, Mathilde Issad, Jean-Philippe Proust, Fabien Crozet, Oscar Barbeau, Cécile Hernandez, Pauline Superville, Judith Villansen, Stéphane Pégou, Juliette Charret, et la mise en scène est signée de Christine Joly, assistée de Marie Roussel.
Et donc juste pour préciser un tout petit peu, effectivement, c'est que le texte qui vient, l'extrait qui vient d'être produit n'est pas dans la distribution du plateau pour des raisons d'organisation, de planning. Enfin,
oui, ouais. Parce que là, on n'a pas tous les comédiens avec nous. Hein. Donc, bah, écoutez, je vous invite vivement à réserver vos places hein, pour le spectacle. Donc, les 16 et 17 novembre.
Voilà. Pour aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter là. La semaine prochaine, c'est Anaïs Sintas qui vient avec une émission sur Rosa Luxembourg. En attendant, eh ben, n'hésitez pas à aller au théâtre et à aller à l'ENM à Villeurbanne le 16 et 17 novembre.
À 20h.
Voilà, je vous remercie. Merci Cécile d'avoir préparé cette émission.
Mais merci à toi Amandine pour la technique.
Et merci de nous avoir invités.
Ben, avec plaisir. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Et on se dit donc à la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snobles.
Journal vivant, produit politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.